Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi Podcast Season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Elisabeth Baucher, Adélie Collard et Claire Roy. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, voire plus. Vous allez nous préciser tout ça. Et à la tête, pour Adélie et Claire, de l'agence Rerom. Vous, Elisabeth, à la tête de votre propre activité.
Oui.
Voilà. Donc, en ce qui concerne l'agence Rerom, vous précisez vous-même des Rerom Natura, Lucrèce, poète antique, exprime la nature des choses comme changeante à l'infini. Toujours mouvant, que seule l'illusion de l'habitude rend stable à nos yeux. Vous avez reçu une mention spéciale au concours Europe en 16, dont le verdict est tombé il n'y a pas très longtemps, avec le projet à Quimper, Dour. Alors, comment vous le prononcez?
Dour Côte-Ker.
Du breton.
C'est du breton.
C'est du breton. Voilà.
Qui veut dire?
Qui veut dire l'eau, le bois et la ville.
Et donc, vous allez nous en parler, bien sûr. Mais on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, et quelles ont été vos études respectives? Ce que je vous propose, c'est peut-être de... Là, on est autour d'une table, et donc on va faire un tour de table. Donc, Elisabeth, vous commencez?
Oui. Alors, moi, j'ai grandi à Paris. J'ai fait mes études à l'école d'architecture de Paris-Lavillette. Un passage par Berlin où j'ai étudié à la Technische Universität. J'ai travaillé également à l'agence Zauberbruch-Houten, une agence internationale implantée à Berlin. Ensuite, donc, j'ai commencé à travailler à l'agence Philippe Fichet, où j'ai rencontré Claire. J'ai également fait un passage par l'agence Petit Idée Prioux, qui fait beaucoup de logements collectifs, l'agence Bernard Tchoumi, architecte. Et puis ensuite, une petite pause avec quelques formations, notamment à l'école de paysage de Versailles, qui m'a fait nous poser quelques questions sur le paysage, sur le territoire, ce qui m'a amené ensuite à travailler au sein de l'atelier Georges, où je travaille encore actuellement.
D'accord. Et vous avez été diplômée il y a combien de temps?
Il y a 7 ans.
Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Ce désir d'architecture, où est-ce qu'il s'est ancré?
Alors, déjà, bon, des études scientifiques, et puis aussi un intérêt pour l'art, pour la culture. Quand j'étais petite, je voulais plutôt être peintre. Mais après, de manière un peu plus pragmatique, c'est vrai que la question de l'architecture est arrivée, puis une volonté de construire.
Pas de père architecte ou de mère architecte?
Pas du tout.
Adélie?
Alors, je peux commencer par l'envie d'archi, mais moi c'est le cas, mon père est architecte, donc j'étais assez très vite sur les chantiers à l'accompagner, c'était ce côté chantier.
Architecte à Paris?
Non, à Lyon.
Ouais.
Je suis lyonnaise, enfin dans l'Ain exactement. Et voilà, le fait de l'accompagner beaucoup sur les chantiers, c'était... J'aimais beaucoup l'atmosphère du chantier, d'avoir y a plein de gens, l'atmosphère un peu multi-acteurs qui étaient très intéressantes. Et c'est ça, au départ, qui m'a poussée à faire des études d'archi. Donc, à l'école d'architecture de Lyon. Et j'ai complété ça par un double cursus ingénieur à l'ENTPE, donc l'école des travaux publics de l'État, qui est juste à côté de l'école d'archi à Lyon. Et ensuite, je suis arrivée à Paris il y a 7 ans pour travailler à la suite de mon diplôme d'ingénieur chez Parc Architecte pendant pratiquement 7 ans, jusqu'à monter il y a 1 an notre agence avec Claire, donc Rerum Architecte.
Donc, Claire.
Donc moi, je suis lyonnaise aussi. J'ai fait l'école de Lyon. C'est là où j'ai rencontré Adélie et on a fait notre diplôme en commun. Pour les envies d'architecture, pas de proche architecte. Je pense que c'était plutôt la combinaison d'un aspect assez scientifique et technique lié à un aspect très créatif du métier. Et j'ai grandi dans un environnement qui était très porté sur la culture et à la fois très pragmatique. Donc je pense que j'ai réussi à trouver dans ce métier les deux...
Réunis.
Les deux aspects, ouais.
Et donc ensuite ?
Ensuite, j'ai commencé à travailler après le diplôme à Lyon, chez Aya Architecture, qui est une grosse agence sur place, sur des gros projets et sur des projets notamment de monuments historiques. Et je suis montée en 2015 à Paris pour travailler chez Philippe Huchet, où j'ai rencontré Elisabeth, jusqu'à la création de Rerum l'année dernière.
Et pour le coup, vous décidez toutes les trois de présenter votre projet européen, c'est ça ?
Bah en fait, on a travaillé plusieurs fois ensemble. Donc, au début, en parallèle de nos activités salariées. Donc, pendant qu'Adélie était chez Parc et que Claire et moi... Alors, Claire était encore chez Philippe Huchet. Moi, j'étais donc, au début chez Bernard Tchoumi et puis bah, maintenant chez Atelier Georges. On a toujours, en parallèle de notre activité salariée, fait des projets. Donc, le soir, le week-end, pendant nos vacances. Et donc voilà, là, c'est un peu la continuité finalement. Donc, avec Claire et Adélie qui ont monté leur agence, et moi, je continue à côté d'une activité salariée.
D'accord. Donc, j'ai posé la question récurrente dans Comme d'Archi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? Vous pensiez créer votre agence ou... Voilà.
À partir de notre diplôme, et ce qu'on s'était un peu dit avec Adélie après avoir été diplômée, c'était d'avoir l'objectif en tout cas de monter notre agence pour nos 30 ans. Ouais. Donc aujourd'hui, on en a 32. Ça a été un peu décalé par le Covid, mais on est pas mal là où on souhaitait être.
Oui, d'ailleurs, vous l'avez créé quasiment au moment du Covid, pas évident.
Début 2020, oui.
Ouais. Et du coup, vous aviez une commande pour démarrer votre agence ?
On a eu un environnement qui a été... très propice à ça, ouais. Par nos expériences passées avec des anciens architectes pour qui on a travaillé, qui ont été des sortes de parrains et qui ont accompagné notre envie de monter nos agences respectives.
Et qui nous aident encore un petit peu.
Qui nous aident encore.
Un peu de maîtrise d'œuvre d'exécution. Et
d'accord.
On travaille avec eux, ça c'est bienveillant.
Donc ça c'est agréable. Et vous candidatez au concours de marché public un petit peu ? Vous avez le temps de faire ça ?
Oui, on essaye en tout cas. Après, c'est pas facile, notamment dans la période. Enfin, on sent quand même que la commande publique se tend un petit peu. Alors, pour une jeune agence de 1 an d'existence, c'est pas forcément facile à justifier. Mais en tout cas, c'est l'objectif et c'est aussi le but de participer à des concours comme Europan et d'être remarqué sur des concours comme cela. C'est de pouvoir aussi justifier d'une pertinence peut-être pour des commandes publiques ou un peu plus...
Justifier des compétences qui ne sont pas forcément illustrées par des références dès qu'on tente de créer notre agence.
Ben voilà, c'est toujours le problème de la référence. Et vous, Elisabeth, vous continuez, vous devez avoir un rythme quand même assez soutenu entre l'agence et
Oui,
et
surtout chez Atelier Georges, c'est plutôt soutenu. Moi, je n'ai pas forcément comme objectif ultime de monter mon agence ou alors pas forcément seule à mon compte... En fait, ce serait moins sur la forme que plutôt sur le fond, où je pense que oui, je suis là où je pensais être, dans le sens où, que ce soit avec Rerum ou avec l'Atelier Georges, je travaille pour des valeurs que je défends. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, et donc je pense que oui, dans un sens, j'ai atteint. Maintenant, c'est que le début.
Oui, oui. Donc, Rerum illustre le mouvement, quelque part. C'est vraiment l'ADN que vous avez souhaité injecter dans votre structure ?
Oui, l'idée, en fait, que depuis notre diplôme, ce qui nous a interpellés aussi dans la conception des projets, c'est les liens parfois distendus de l'homme avec son environnement et avec les milieux, notamment naturels. Et du coup, cette question du mouvement, enfin de la mouvance, qui a été un peu traitée par des auteurs, c'est que on considère que l'homme ne peut pas être décorrélé d'un état changeant et mouvant de son environnement. Donc, de fait, les projets d'architecture non plus ne peuvent pas l'être. Et la construction, donc aujourd'hui, dans la construction de la ville et dans la construction du bâti, c'est un peu ce que nous, on défend, c'est de se raccrocher finalement au milieu, à l'environnement naturel, aux grandes armatures naturelles et donc géographiques des sites dans lesquels on s'insère, pour essayer de ramener l'homme à ce contact avec le mouvement de la nature.
Oui, donc, une reconnexion finalement.
Oui, une question de lien. Alors, retrouver des liens parfois distendus avec nos environnements.
Et alors les projets, parce que vous commencez à travailler quand même sur des projets concrets. J'imagine que vous n'avez pas encore de références construites, vous êtes encore très jeune.
Oui.
Après, Elisabeth, vous allez nous préciser aussi ce sur quoi vous travaillez. Mais quel type de projet donc abordez-vous? Et comment ce que vous venez de dire se traduit dans l'espace, dans le traitement?
Notre apport théorique se traduit pas mal par une volonté d'inclure la recherche dans notre démarche en général et dans les projets. Donc à côté des projets construits d'architecture, on discute beaucoup, on écrit un peu, on publie des articles dans des revues d'architecture, on travaille un peu sur les sujets liés aussi justement avec le côté plus scientifique d'Adélie sur le biomimétisme, sur des approches qui, à côté de ça, viennent nourrir la pratique. Et on les met en pratique quand on répond à des appels d'offres ou quoi que ce soit, de façon plus pragmatique. Donc là, sur des projets comme Europan, on arrive, et je pense que là, ça a été un petit peu ce qui a sorti aussi le projet, c'est une réflexion très théorique pour faire le levier et rentrer dans le projet pour après avoir une réponse très pragmatique.
Elisabeth, vous souhaitiez...
Oui, peut-être pour compléter même ce qu'on disait juste avant sur l'apport théorique, en fait, ça montre l'intérêt que l'on a pour des questions un peu territoriales, parce qu'on a plutôt quand même une pratique architecturale. Donc, on a travaillé en agence vraiment à l'échelle de l'architecture, notamment sur des chantiers. Et aller vers des questions plus territoriales et paysagères nous permet justement de mettre tout l'apport théorique que l'on peut avoir, toutes les réflexions que l'on peut avoir dans un projet qui potentiellement pourrait se concrétiser. Et donc pour répondre à cette question sur Europan, donc en fait on est rentré dans le thème de cette année qui est ville vivante justement par cette question du mouvement, en essayant d'identifier sur le site dans quelle mesure est-ce que la ville était vivante, et pour nous la réponse c'était par le mouvement par lequel elle peut bouger. Donc c'est-à-dire qu'en fait on a identifié plusieurs mouvements distincts, plusieurs cycles qui nous permettent d'identifier qu'en fait un lieu va être différent en fonction donc de l'échelle de temps autant que dans l'échelle spatiale. Donc concrètement, en fait, on a identifié trois temporalités qui sont la temporalité qui va être plutôt liée à l'humain, qui serait une temporalité du quotidien, de la journée. Une deuxième temporalité qui est plutôt liée à la végétation, aux saisons. Et une troisième temporalité qui est le cycle des marées. Parce que donc Quimper est au bord de l'Audet et on est encore dans la dernière vague de la marée. Et ça a aujourd'hui plus vraiment d'impact parce que l'Audet est contenu. Et donc, une des pistes serait de retrouver la marée, justement, en ville, en reconfigurant les quais.
Adélie ?
Ce qu'on trouve, je pense, intéressant avec Europan et ce qui nous pousse quand même à continuer à répondre à ce genre de concours, c'est justement que les échelles de projets proposées par le concours nous permettent d'aller très loin finalement dans ces questions justement territoriales et d'aménagement à grande échelle de la ville. Nous, ça nous permet de mettre en pratique des idées qu'on peut avoir justement sur ces questions de rapport de l'homme à son environnement et de mouvance et mouvement géographique et naturel, on va dire. Et ce qui fait, à mon avis, que le projet a été remarqué, c'est que nous, on a réussi, enfin, je dirais, à mettre complètement en accord des intuitions qu'on peut avoir de par ailleurs et une réponse urbaine et architecturale. Quoi. Donc, le fait que Quimper soit situé vraiment à la fin du marnage de l'Audet, donc qui est comme ça une sorte d'armature paysagère naturelle du fleuve qui est très forte, plus, c'est un peu peut-être précis à détailler, mais aussi une topographie qui est assez présente dans la ville, fait que c'est apparu assez vite que c'était le bon terrain pour avancer sur ces idées-là, de retrouver du lien et de le matérialiser dans la ville.
Claire, vous souhaitez peut-être apporter votre point de vue?
Ce qui nous a aussi plu cette année particulièrement, c'est que la question de la ville métabolique, elle, résonne avec nos propres recherches personnelles et nos intentions de projet, et que le site de Quimper est aussi un site un peu particulier pour mes deux collègues qui ont un rapport personnel avec cette ville, que ce soit pour des loisirs ou des liens familiaux. Donc ça...
Oui, donc vous connaissiez déjà Quimper?
Oui, en fait, pour préciser, donc là, pendant les confinements successifs, je suis partie à Quimperlé pendant un peu plus d'un an, qui est à trois quarts d'heure de Quimper. Donc ça m'a permis d'expérimenter la vie de néo-rural pendant quelques temps. Et donc ça fait partie aussi des volontés qui nous ont... Enfin, c'est partie des raisons pour lesquelles on a voulu candidater à Quimper. Voilà, et puis Adélie a également une maison au bout du Finistère. Donc voilà. Mais dans tous les cas, ça fait partie des volontés que l'on a de se développer vers l'ouest. Et puis même en fait, pour aller plus loin, même si j'ai grandi et je travaille à Paris, là, avec tous ces confinements, ça m'a quand même pas mal persuadée de la volonté de quitter Paris. Et donc d'aller justement plutôt vers l'ouest.
Et donc Adélie et Claire, vous restez à Paris ou...
Nous, notre installation à Paris, c'était un peu circonstanciel parce qu'en étant toutes les deux lyonnaises, je pense pas qu'au début on s'était dit qu'on visait particulièrement la capitale. Ça a été circonstanciel, Adélie pour son stage et moi pour une opportunité de travail. Et en fait, on a été toutes les deux très séduites par la ville et par la vie parisienne. Et donc, on est installé à Paris et en montant notre agence, ça prouve qu'on va y rester un peu.
Ouais.
Ça nous donne la possibilité de...
La commande est ici aussi.
Oui,
beaucoup.
Voilà. Justement, avec l'appétence qu'on peut avoir pour la recherche.
La stimulation.
Les gens, en fait, qui... C'est encore, malheureusement, je pense, mais c'est encore très centralisé à Paris.
Un gros chaudron culturel.
les conférences, les expositions, les gens à rencontrer sont beaucoup là. Et nous, ça ne nous déplairait pas de peut-être rebouger par la suite. Mais aujourd'hui, c'est quand même très intéressant pour nous d'être là. Mais voilà, on a tendance à vouloir, dans les projets en tout cas, s'échapper un peu parfois vers l'ouest. Parce que ça nous attire. Il y a une sorte de résonance aussi climatique avec des ambiances et des...
Mais la mer est déjà très attractive.
Oui, déjà, tout simplement.
Tout simplement. Ouais. Et puis, c'est une autre temporalité.
Peut-être.
Vous, justement, qui avez cette sensibilité.
Je dirais que c'est plus la présence, nous qui sommes très attentives à l'environnement géographique de nos projets, des territoires qui sont proches de la mer ou dans les montagnes.
Marqués par leur géographie.
Voilà, et ça donne de l'écho à un propos qui est peut-être plus perceptible. Enfin, c'est plus perceptible de mettre en lien les habitants avec la montagne, par exemple. C'est plus facile de mettre les habitants en lien avec leur environnement naturel quand on est proche des montagnes et qu'on voit des sommets de sa fenêtre. Ou proche de la mer quand on voit le flux des marées de l'espace public. Mais du coup, je pense que pour nous, ça paraît peut-être plus facile aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de traiter ces problématiques-là à toutes les échelles, mais je pense que ça, dans notre discours qui est encore en construction, parce que l'agence est toute jeune et que nous, on n'est pas si vieille, ça nous permet de...
Non, vous êtes toute jeune encore.
je pense que ça nous permet de poser les idées peut-être un peu plus facilement. Par exemple, on a travaillé récemment sur, sur aussi le concours Amiter qui avait été lancé, qui abordait des sites soumis au risque majeur. Donc nous, on avait choisi un site en Normandie, pareil, qui avait ces mêmes qualités, c'est-à-dire qui était proche de l'océan, donc soumis à l'influence des marées, parce que c'est pareil, ça nous... Je pense qu'on avait plus de facilité peut-être à se projeter et à projeter notre, cette intuition qu'on a de lien à renforcer entre l'architecture
Et la géographie.
Voilà. Et c'est plus facile pour l'instant pour nous dans des territoires soumis à des risques, dans des zones qui sont très impactées par les grands...
changements climatiques.
Oui, oui. C'est
finalement, au fond de vous, il y a comme une mission à accomplir. Enfin, vous faites partie de cette génération.
C'est une question générationnelle, tout à fait. C'est qu'on a un héritage construit, dont aujourd'hui on est responsable en tant qu'architecte, et des vrais enjeux climatiques à prendre en compte tous les jours. Et nous, dans notre pratique de l'architecture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter et qui est même essentiel pour continuer de se lever le matin et de faire son travail. Donc, c'est quelque chose qui, nous, de toute façon, a toujours été constitutif de notre façon de travailler et qu'on essaye d'explorer.
Ouais.
Exactement. Mm. Les notions de résilience, elles sont aujourd'hui, à notre avis, impossibles à mettre de côté.
Bon. Fort intéressant. Et puis, en effet, vous allez devoir gérer cet héritage, donc le modeler en permanence.
Ce qui est certain, c'est que je pense qu'il va falloir travailler avec l'existant, que ce soit l'existant bâti, l'existant naturel, mais de toute manière, il va falloir qu'on travaille dans l'existant. Et ça pose aussi des questions sur faut-il encore et comment construire. C'est pour ça que dans notre réponse, il y a dans le quartier sur lequel on intervient, il y a des bâtiments existants. On a pris le parti de les démolir très peu, pour essentiellement les garder, bien qu'on pourrait se poser la question de leur positionnement. Néanmoins, les bâtiments sont là. Et finalement, la construction qui serait la plus vertueuse écologiquement, c'est la construction qui n'est pas faite. Ou alors en tout cas, c'est faire avec l'existant, le rénover, l'adapter. Comment anticiper, comment est-ce que les bâtiments pourront devenir eux aussi résilients? Comment est-ce qu'ils peuvent s'adapter aux nouveaux usages, aux changements sociétaux? Parce que finalement, les bâtiments aujourd'hui, au bout de 20-25 ans, sont finalement déjà assez vétustes, compte tenu du fait que la société change tellement vite. Donc c'est un vrai enjeu là-dessus, sur comment adapter aujourd'hui le patrimoine, soit existant, ou même s'il faut construire du neuf, comment le rendre suffisamment
pérenne,
adaptable et polyvalent finalement.
C'est pour ça qu'on redécouvre aussi des techniques constructives. Et j'imagine que l'histoire vous interpelle, notamment la pérennité du granit, enfin de ce genre de matière en Bretagne, qui résiste énormément au temps et sans forcément être passéiste.
Oui, au-delà d'une pérennité de matériaux, nous on a beaucoup travaillé justement sur la durabilité programmatique, avec la possibilité de réinvestir un patrimoine existant. Et sur le projet, sans investir des matériaux aussi légendaires, on va dire, que le granit, on a plutôt axé notre travail sur l'économie circulaire et sur le fait que tout ce qui était enlevé sur les bâtiments existants serait réinjecté dans le projet sous une autre forme et sous une forme constructive.
Justement, est-ce que vous pouvez le décrire de manière un peu imagée pour qu'on se l'imagine, ce projet ?
Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un projet donc, en plusieurs phases. L'idée étant de faire en sorte qu'il puisse y avoir une première phase à faire tout de suite, très facilement, dans une certaine économie de moyens. Et puis, si ça fonctionne, on peut continuer. Et puis aussi, ça nous permet de tester ce qui peut fonctionner ou pas, pour pouvoir éventuellement ajuster le projet. Donc une première phase d'installation temporaire, surtout sous les espaces publics, dans les bâtiments existants, laissés tels quels. Et puis, au fur et à mesure, si le projet prend, une construction plus pérenne avec les bâtiments existants, et puis aussi des constructions dans la pente, donc une nouvelle forme d'habitat qui s'installe le long de ces fameux murs en granit qui permettent de tenir, parce qu'on a vraiment une forte topographie, tenir la topographie existante. En parallèle de ça, donc, c'est une vraie réflexion sur l'habitat et un habitat serviciel ou avec des extensions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un logement donné, mais en fait, comment imaginer d'avoir des éléments en plus ? Donc, par exemple, peut-être qu'on peut vivre dans un trois pièces, mais avoir une chambre d'amis en plus partagée avec tout le quartier. Peut-être des locaux vélo, ce genre de choses, qui pourraient être partagées avec le quartier, ce qui fait qu'on a des éléments en plus de notre logement, sans forcément avoir ces pièces en plus qui, avec le temps, finissent par être vacantes. Parce qu'aujourd'hui, dans des villes comme Quimper, il y a beaucoup de maisons, par exemple des 5 pièces, des 6 pièces, qui sont occupées par des ménages de 2 personnes. Donc comment rendre justement cet habitat à échelle variable pour s'adapter à l'évolution des foyers, à la vie et à l'évolution des usages.
Dans votre idée, ça passait par la concertation ou...
Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Donc, dans la première phase, c'est ça, c'est une préfiguration, des installations temporaires et puis un dialogue avec les usagers, avec les élus aussi, évidemment. Parce que c'était aussi un des constats qu'on a fait donc, en échangeant avec des Quimperois. C'était que donc, aujourd'hui, le quartier a déjà fait l'objet de plusieurs travaux. Mais il n'y a pas eu de consultation faite avec les habitants. Donc, les habitants sont plutôt contents, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu cette interaction-là. Il y a peut-être eu un manque. Et donc, voilà, donc c'est proposer des espaces avec des programmes qui sont peut-être à définir avec les habitants.
Adélie.
Pour suivre la suite de cette peut-être première phase de concertation, c'est une seconde temporalité qui est une temporalité de projets, disons, plus classiques, qui visent aussi, en fait, à apaiser une problématique de mobilité sur le site, parce que le gros sujet, et c'est comme ça qu'il a été présenté au-delà de la thématique des villes vivantes qui relient l'ensemble, c'est que on est sur une entrée de ville qui est particulièrement problématique parce que il y a une circulation très rapide des voitures qui provoque énormément d'accidents. Et l'action de projet initial, disons, une fois ce projet terminé, c'est aussi de venir reconfigurer un carrefour qui est extrêmement dangereux aujourd'hui et qui a une certaine tendance à couper la ville en deux, enfin le quartier en tout cas en deux, avec une partie donc, qui actuellement est très boisé, mais qui est rempli de patrimoine ancien, voire obsolète, que la ville se demande si elle ne va pas détruire ou pas, enfin, sur lesquelles, du coup, toutes ces questions de réemploi aussi sont tout à fait pertinentes. Et une deuxième partie de ville qui a commencé à être transformée, mais qui, aujourd'hui, est plutôt tournée sur de l'artisanat ou sur du tourisme. Nous, notre proposition de projet, dans la deuxième phase, donc dans la phase opérationnelle, vient apporter une réponse qui tente d'apaiser donc, les questions de mobilité, de recréer du lien entre les parties nord et sud de ce quartier et, comme le disait Elisabeth, de ramener un confort d'habiter dans un quartier qui aujourd'hui est un peu en déshérence. Et enfin, la troisième phase, on va dire, qui est plutôt une phase sur le temps long, que nous, on aime toujours apporter dans nos projets, une vision un peu qui ouvre aussi, qui est beaucoup plus large, qui vient, elle, s'inscrire à un niveau plus territorial, qui propose donc une hypothétique renaturation de l'ensemble des berges de l'Audet, avec la déconstruction des quais actuels qui sont très minéraux. Enfin, aujourd'hui, c'est des parkings, hein, globalement. Et pour... du coup, aborder les questions qu'on évoquait un petit peu avant de pérennité face à la montée des eaux, de renaturation de la ville, d'accès aux espaces naturels par les habitants, et avec le fantasme de revoir un jour les trois mâts dans la skyline de Quimper, ce qui était le cas au début du siècle, on va dire, et qui aujourd'hui n'est plus du tout le cas, parce que la plupart des les ponts ont coupé complètement la possibilité d'avoir des bateaux avec de grandes hauteurs qui arrivaient jusque dans la ville.
Alors il va falloir concilier le franchissement du bateau et le franchissement de la population.
Voilà. Ouais. Et ce qui pour nous est symbolique de peut-être un changement de mentalité entre une époque où on a cherché plutôt à aller plus vite, faire plus de voies de voies rapides pour aller très vite d'une zone commerciale à une autre, hein, globalement, et qui aujourd'hui n'est plus du tout la préoccupation première ni des habitants ni des politiques, parce que c'est pas du tout sur ça qu'on parle aujourd'hui. Donc on est plutôt sur ralentir, retrouver des rythmes de mobilité plus lents, plus adaptés à la morphologie naturelle du site, et surtout de préparer peut-être des modifications climatiques qui vont faire qu'on ne pourra pas toujours maîtriser le cours de l'Audet pour qu'il rentre bien et qu'il reste bien dans son lit. Donc, voilà.
L'idée, c'est de pas le contraindre, mais de pouvoir l'absorber dans ses débordements.
Exactement.
C'est ça. Mais du coup, il va falloir tous les rez-de-chaussée, il faut qu'il y ait une certaine agilité dans l'aménagement. Enfin, les Vénitiens le vivent très bien, l'Acqua Alta. C'est un peu le même principe que vous.
Voilà. Là, je pense qu'on n'est pas. Enfin, on est vraiment sur une échelle de temps long. Et justement, le fait de peut-être déconstruire des berges qui aujourd'hui sont très rigides vise aussi à pouvoir concentrer la montée des eaux dans certaines zones sans impacter la ville. Voilà. Mais aujourd'hui, la ville de Quimper, encore aujourd'hui, peut être soumise à des inondations qui peuvent être assez importantes. Et il faut les avoir en tête, c'est-à-dire que c'est des phénomènes climatiques qui ont des récurrences assez longues, des crues centennales, voilà. Donc la mémoire d'homme suffit à peine à en avoir conscience, mais c'est des choses qui arrivent.
Potentiellement arrivent.
Oui, qui arrivent déjà, qui sont déjà arrivées.
Qui arrivent même assez régulièrement. Il me semble que ça a été le cas l'hiver dernier.
Ça s'intensifie un peu.
C'est un concours de circonstances. C'est des grandes marées plus des grosses pluies qui fait que ponctuellement. Ouais. L'eau est plus haute, sauf que comme aujourd'hui tout est très minéral, ça va très vite.
Oui, ça ruisselle.
Voilà, exactement.
Est-ce que dans vos actions, justement, peut-être que Claire peut prendre la parole, vous voulez redonner un peu plus de charme à la ville ? Ou est-ce que ça rentre pas encore dans vos...
Je pense que là, notre volonté, en tout cas pour ce quartier-là, plus que le charme, c'était de retrouver vraiment une qualité de vie. Mm-hmm. Dans une urbanité qui est située vraiment sur une frange, on avait un gros sujet d'infrastructure, comme l'a expliqué Adélie, sur des espaces qui sont un peu dénaturés et qui ont besoin de retrouver une identité pour que les gens s'identifient à leur quartier, soient fiers de leur quartier et le pratiquent d'une façon, oui, fière et en tout cas heureuse. Ce qui a commencé à être fait par la ville au niveau des quais, ne demande qu'à remonter et à aller rejoindre justement le plateau qui, lui, est fait de logements. Et donc, on a vraiment axé notre travail sur le fait de venir remailler les différentes trames qu'on a identifiées sur le site. Et le travail sur les différents cycles visait à essayer de venir faire une synthèse de tous ces usages pour arrêter de les cloisonner et d'en faire quelque chose qui ressemble justement à un milieu. Comme dans les milieux naturels où les choses se croisent et coexistent sur le même site. Donc on est vraiment plutôt sur une recherche de qualité de vie et de qualité d'usage d'un quartier et d'une façon d'habiter.
Pour peut-être faire une ville attractive et notamment pour les jeunes, ça c'était aussi une volonté qu'on voulait, c'était de dire aujourd'hui Quimper c'est quand même une ville assez calme et finalement avec le mouvement d'aujourd'hui où des gens comme moi qui ont vécu dans des grandes villes vont potentiellement quitter ces grandes villes pour aller vers des territoires soit ruraux, soit...
Qui ont été eux-mêmes désertés.
Voilà, exactement. Mais donc, comment faire en sorte que ces villes puissent devenir attractives à des anciens urbains, à des jeunes, et donc vraiment les rendre attractifs, dynamiques, avec des nouveaux usages.
Justement, là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Comment vous, en tant que jeune conceptrice, vous arrivez à concilier dans votre esprit ce qu'on appelle les mobilités douces, mais qui sont devenues des mobilités un peu agressives à Paris, hein. La trottinette qui vous fonce dessus, qu'on n'entend pas. Enfin, quand on commence à être un petit peu moins svelte et à sauter partout, en ce moment, on a du mal à circuler à pied à Paris. Les vélos qui... Nan, nan. Comment vous percevez ça pour que les générations puissent vivre ensemble ? Est-ce que vous y pensez, en tout cas, à ça ?
Le travail, là, en tout cas, qu'on a fait sur l'arrivée et sur ce grand axe qui vient couper, qui était une 2x2 voies, c'était justement de venir réduire la place de la voiture, ce qui semble être le postulat de base aujourd'hui, au strict minimum, mais du coup de venir travailler l'infrastructure sur une hiérarchisation des modes doux et en gardant une grande place pour le piéton qui est séparé du reste par des installations d'équipements qui reçoivent les terrasses et des parkings de vélos et tout ça, pour que les modes doux que vous décrivez vous comme agressifs aient une place forte et pas une toute petite voie sur le côté des voitures comme on peut le voir à Paris, mais aient une vraie place sur la chaussée pour pouvoir utiliser leur vitesse, ce qui est quand même le but ultime, et que les piétons, eux, aient une place réservée à côté de façon plus calme et plus douce.
Finalement, en fait, dans ces tracés, vous redonnez une place au vélo, tout simplement, aux deux roues, c'est ça ?
Oui, même en allant un peu plus loin, en fait, on a une volonté de développer des parcours alternatifs à travers le territoire. Donc, en fait, il y aurait ce parcours quotidien qui soit la voiture ou le vélo pour vraiment se déplacer, mais aussi des parcours qui permettent d'expérimenter le territoire de manière plus lente, qui serait plutôt ce qu'on appelle le parcours balade touristique, qui serait donc le long de l'Audet, qui est en lien avec le paysage, dans une autre temporalité. Il y a également un autre parcours qu'on appelle le parcours sportif, lui qui permet d'expérimenter une autre vision du territoire, plutôt sur les hauteurs de Quimper, et qui permet d'avoir donc des vues sur la ville. Donc il y a cette volonté de... Et ça, c'est un fil conducteur qu'on a toujours sur nos projets, de voir le territoire par l'expérience du parcours.
Du coup, vous êtes beaucoup promené à Quimper ?
Pas mal, oui.
On y est allé en tout cas pour voir, pour pratiquer, pour faire les visites qui a été organisée pour Europan et pour essayer de s'imprégner un petit peu des ambiances, des lieux. Et on a aussi pas mal discuté avec des habitants sous la forme d'interviews pour essayer, comme on le disait sur la préfiguration et sur la concertation, d'avoir l'avis des gens qui pratiquent le territoire.
On a testé voiture, vélo et piétons.
Une autre question, vous parliez de la ville attractive. Donc, c'est plus le multiplex cinéma ou le karting qui va le rendre attractif ? Ou ça en fait partie ?
Non, justement, ce serait plutôt une échelle, une plus petite échelle. L'échelle vraiment de l'habitant, du quartier. Je pense qu'avec la crise sanitaire là, de ces derniers temps, on a tous eu une envie d'avoir un espace extérieur, d'avoir un quartier dans lequel on se sent bien, pour lequel on peut aller à pied, avoir tout ce qu'il faut, que ce soit autant les loisirs, les courses, d'avoir une vraie vie de quartier, même si c'est en ville.
Donc réanimer les quartiers.
Exactement.
À l'inverse de justement ces équipements suburbains qui...
Qu'il faut peut-être avoir conscience aussi, je pense que c'est pas forcément... Enfin, c'est même pas du tout le cas dans notre pratique de la ville de Paris. Mais à Quimper, il y a quand même une présence très, très importante de gros centres, des hypermarchés, des gros centres commerciaux qui sont disséminés un petit peu partout autour de la ville. Ce qui fait que, mis à part l'hypercentre médiéval de Quimper, qui est lui qui a été...
qui continue de vivre pour son tourisme.
Voilà, qui perdure et qui est très préservé et que les Quimperois aiment beaucoup... On n'a pas trop, comme on peut le connaître dans des villes comme Paris, de vie de quartier avec ses commerces, ses habitudes de riverains qui vont aller avoir leur boulangerie, leur fromager et puis leur primeur. Donc c'est aussi, nous, l'identification programmatique qu'on fait, c'est que le quartier qui nous donnait à notre étude, en fait, c'est un quartier historiquement à Quimper, qui est presque le berceau de Quimper, mais qui aujourd'hui est plutôt dévolu à des activités touristiques et de loisirs, donc avec notamment beaucoup de bars, ce qui plaît pas tellement aux riverains, parce que c'est
un peu bruyant la nuit.
Voilà, et qui a toute cette idée de conciliation de différentes générations, de différents modes de vie, et que le témoignage de ce quartier, c'est que la mono-activité, on va dire, donc soit que des bars, soit que des artisans, soit que de l'habitat, ça fonctionne pas très bien pour la vie du quartier.
Finalement, est-ce que le développement anarchique, parce qu'on a quand même vécu sur du développement anarchique géré par les lois du marché, c'est un temps révolu, à votre avis ?
Je pense que ce sera difficile de sortir des logiques foncières, de toute façon.
Oui.
Ce qui peut être intéressant, je pense, c'est de réinterroger les sites sous l'angle de la réutilisation et de la refabrication de la ville sur elle-même. Parce que les logiques foncières qui sont à l'œuvre actuellement sont beaucoup basées sur la construction neuve. C'est pas du tout, je pense, le même sujet quand on intervient dans l'existant ou que ça devient trop coûteux environnementalement parlant pour détruire les structures existantes. Ça demande plus de finesse. C'est là, je pense, que les architectes ont tout à fait leur rôle à jouer parce qu'ils ont la capacité d'observer de très près, avec beaucoup de subtilité, ce qui peut se passer dans un tissu existant. Et qu'on peut... On a peut-être notre carte à jouer sur cette appréhension plus fine d'un contexte existant qui maintenant, voilà, les sites qui sont ni soumis à des risques, qui sont vierges de toute construction ou qui sont facilement reliables par des réseaux de transport et tout ça, ça n'existe plus trop. Donc, je pense que c'est sur ça que nous, on essaye en tout cas d'apporter des idées, quoi. Et que notre génération d'architectes, je pense, peut apporter des idées et leurs valeurs. C'est qu'on ne peut pas vraiment faire ce genre de projet avec un tableau Excel. Donc, il faut trouver les manières de le faire peut-être plus fine et plus intelligente.
Et donc, vous avez à convaincre les élus ?
Oui.
Là, pour ce sujet particulièrement, les élus, ils étaient très moteurs dans le fait de redonner une identité au quartier. C'est eux qui ont engagé le processus au PAN. Et la vraie surprise qu'on a eue dans les échanges avec eux, c'était sur la place de la voiture, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Parce que notre regard de pratique du territoire depuis Paris est tout à fait distant de cette notion vitale pour eux, qu'est le fait de se déplacer en voiture. Donc au début, on a été un peu réticente à l'idée de conserver cette donnée. Et c'est justement dans les échanges avec eux qu'on a pu édulcorer un peu notre approche. Mais à part sur la place de la voiture, et qui de toute façon était une discussion assez intéressante, ils ont plutôt été très, très moteurs et très demandeurs, justement, d'une nouvelle façon d'appréhender le territoire. Et je pense que ça doit être une disposition un peu générale des villes qui font appel à Europan. Oui. C'est aussi pour, justement, avoir des idées plus... Oui.
Adapté au temps présent.
Voilà, ou plus éclairé, ou plus original en tout cas.
Ouais, mais ça, c'est plus facile peut-être avec des villes moyennes. Les grandes villes, elles sont tellement contraintes déjà que les transformer, c'est... Enfin, on le voit ici, c'est très compliqué.
Ça se fait plus doucement, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place.
Ah oui, oui. Ouais.
Justement, peut-être le débat... Donc, c'est, enfin, aujourd'hui... On peut parler aussi beaucoup sur comment se déroule le débat, mais le débat démocratique qu'il peut y avoir autour du changement de la ville, je pense que c'est tout aussi intéressant à étudier pour les architectes. Et ça redonne pour moi son sens à plein d'aspects de notre métier que peut-être, moi comme tout le monde, j'ai commencé ma carrière en travaillant dans des ZAC, avec donc plein d'acteurs très différents, mais où du coup les choses étaient déjà assez cadrées. Je trouve que pour des architectes, réfléchir à cette question de la mutation de la ville au sein d'un débat démocratique très actif, où en fait on se rend compte que, à Paris on s'en rend compte, c'est que les habitants sont très concernés par ces questions-là. Et du coup c'est là, dans le sens que ça devient intéressant, et que nous en tant qu'architectes, qui avons quand même une formation qui est finalement par rapport à plein d'autres acteurs du bâtiment, très poussée sur les questions de la sociologie et de l'urbanisme et de la fabrication de la ville, c'est d'autant plus intéressant. Si c'était unilatéral et que les architectes arrivaient en disant « Bon, je pense que la bonne ville, c'est ça, et on va la faire comme ça, et que tout le monde était OK », ce serait peut-être un peu moins riche. Et le débat et la contestation viennent, si on est capable de les intégrer au projet, enrichir notre pratique.
Oui, pour aller même plus loin, je pense qu'on a presque autant à apprendre, nous, concepteurs, que les élus et les habitants avec qui on va travailler. Finalement, c'est par l'échange que l'on peut avoir sur ce projet, enrichir nous notre pratique par les visions de personnes qui ont une pratique quotidienne du territoire.
Bon, alors Corbu est loin maintenant. Enfin,
je pense qu'il faut peut-être regarder aussi l'évolution de son travail.
Ouais.
C'est-à-dire que lui, il a aussi fini par vivre dans une cabane au bord de l'eau.
Ouais. Donc, brune dans un... une unité de camping.
Voilà, donc il a aussi évolué. On peut, je pense, le lire de plein de manières différentes. Il ne faut pas du tout tout mettre... En son temps, c'était très intéressant. Et je pense qu'il y a toujours des idées très intéressantes à rechercher dans l'œuvre du Corbusier ou d'autres modernes.
Hein.
Faut juste les réinterroger vis-à-vis des...
L'espace
de
public.
Notre époque, et oui, et de...
L'enseignement encore assez moderne qu'on peut avoir en école d'archi.
Oui.
Ouais. Oui, et puis peut-être aussi, du Corbu, on peut ne pas forcément tirer que la forme, mais aussi le fond, à savoir des logements abordables dans des immeubles mixtes, qui est finalement une question toujours contemporaine.
Alors, justement, j'avais cette question. Comment imaginez-vous le monde de demain? Mais quelque part, dans vos projets, vous avez déjà répondu. Vous aviez des petites choses à rajouter?
On peut insister sur le fait que, justement, notre volonté, elle est étant justement les héritiers d'un enseignement moderne et d'un contexte très particulier et climatique, on ne peut s'affranchir de la question du durable et de la durabilité en général. Et que... On ne peut qu'espérer que l'avenir se dirige vers ça.
Ouais.
Et qu'on ne soit pas... Je ne pense pas du tout qu'on soit les seuls à se poser la question. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une question qui est inévitable.
Oui. Et puis, ça va s'imposer par la force des choses. C'est toujours comme ça que les choses avancent. C'est par la force des choses, on est obligé de s'y mettre. Quels conseils donneriez-vous aux étudiants en architecture? Vous en sortez presque, mais bon, peut-être que... Dans votre démarrage, vous avez des choses à leur dire ou...
Je sais qu'avec Adélie, en tout cas au sein de RERUM, on a une volonté de croiser les différents champs. Et on ne peut que conseiller ça justement à quelqu'un qui sort de l'école. Et l'archi, c'est un entre-soi qui est très très fort. Et en sortant de l'école, on a tendance à baigner justement dans ce milieu-là. Et le fait de faire du projet d'architecture avec d'autres acteurs, qu'ils soient scientifiques, sociologues, designers ou quoi que ce soit... C'est très riche et ça enrichit beaucoup. Et même dans la formation, le fait de nous-mêmes se former sur d'autres champs d'action que l'architecture et essayer justement d'ouvrir un peu le carcan, surtout si c'est fait très tôt, je pense que ça peut être que bénéfique. Et nous, on essaye très souvent justement d'inclure d'autres champs dans notre pratique pour essayer de s'apprendre au moins mutuellement et de faire de la pédagogie sur l'architecture aussi, parce qu'on se rend compte que c'est quand même...
Un grand
un
sujet.
Un métier qui est assez flou pour le reste du monde.
Oui. En général, les gens ont beaucoup, beaucoup de ressentiments.
Il y a beaucoup d'avis sur l'architecture et assez peu de...
Ça manque de...
De pédagogie.
Oui.
Et donc, le fait de travailler, justement, ce qu'on disait
en
sur...
Avec
les politiques, avec l'habitant, avec les autres professions, ça peut être que bénéfique dans la pratique.
Et ce que disait Iris Chervet, qui a été plusieurs fois lauréate, que vous connaissez, j'imagine, c'est que cette peut-être manière plus ouverte de penser l'architecture permet de se dédouaner du fait de minéraliser et de, voilà, d'aller dans le sens contraire de ce qu'il faut faire actuellement. Ça vous permet de vous redonner une confiance dans vos interventions. Et dans un métier qui n'est pas toujours très bien perçu à l'extérieur.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et je pense qu'à travers ça, et d'ailleurs, Europan est assez demandeur d'équipes pluridisciplinaires.
Ouais.
Nous, on l'a vu aussi justement avec la formation d'Elisabeth sur le paysage. Le fait d'avoir un recul et un regard neuf sur un projet, on peut avoir tendance à avoir des réflexes qui se mettent en place, ou justement des écoles de pensée, selon les formations qu'on a eues. Et à ce niveau-là, et surtout dans des projets de réflexion, il faut ouvrir le plus possible pour être le plus éclairé et avoir la meilleure réponse d'architecte.
Un mot de la fin, l'une après l'autre, pour conclure.
Merci beaucoup de nous avoir invités.
Ouais, merci beaucoup.
Merci.
C'était avec grand plaisir. Merci à vous et merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.